3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Une centrale nucléaire est principalement destinée à la production d'électricité et est constituée d'un ou plusieurs réacteurs nucléaires ayant pour source d'énergie un combustible nucléaire. La puissance électrique d'une centrale varie de quelques mégawatts à plusieurs milliers de mégawatts en fonction du nombre et du type de réacteur en service sur le site. L'énergie produite par cette centrale nucléaire provient de la fusion de noyaux d'atomes lourds. Celle-ci dégage de la chaleur qui sert, dans un premier temps, à vaporiser de l'eau, comme dans toute centrale nucléaire thermique conventionnelle. Puis, la vapeur d'eau produite entraîne en rotation une turbine accouplée à un alternateur qui produit à son tour de l'électricité. C'est la principale application de l'énergie nucléaire dans le domaine civil. On compte dans le monde environ 250 centrales nucléaires qui produisent environ 10 % de l'électricité mondiale. La toute première centrale nucléaire du monde à produire de l'électricité sera l'Experiment Breeder Reactor 1, construite au Laboratoire national de l'Idaho, aux États-Unis. Cette dernière est entrée en service le 20 décembre 1951. Par la suite, seront bâties des centrales nucléaires en Union soviétique, en France, puis au Royaume-Uni. Finalement, la puissance nucléaire mondiale augmentera rapidement jusqu'à la fin des années 1980. Deux incidents allaient cependant mettre un terme à cette expansion. Le premier sera celui du Three Mile Island aux États-Unis, survenu le 28 mars 1979 dans l'État de Pennsylvanie, où, suite à une chaîne d'événements accidentels, le cœur du réacteur de la centrale a en partie fondu, entraînant le relâchement dans l'environnement d'une faible quantité de radioactivité. Le second sera la fameuse catastrophe nucléaire de Tchernobyl, qui fut un accident nucléaire majeur survenu dans la nuit du 25 au 26 avril de 1986 à cette centrale située à plus ou moins 100 km au nord de Kiev, en Ukraine. Ce sera donc notre sujet du jour où je vous parle de deux films qui nous montrent les dangers de ces dites centrales et qui ont été directement ou indirectement en lien avec ces incidents, soit le film de 1979 « The China Syndrome » du réalisateur James Bridges et de la mini-série « Tchernobyl » produit par HBO et diffusé en 2019. Donc, mettez votre combinaison de protection contre la radioactivité et préparez votre équipe de tournage afin d'assister à ce programme double où les dangers de la radiation peuvent devenir des plus mortels suite à une négligence humaine.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Close the flow channels. Activate the hydrogen recombiners.
Meltdown.
Do it.
In 10 seconds.
Well, actually, I'm with the tour group. But I did stay at a Holiday Inn Express last night.
Stay smart. Stay at a Holiday Inn Express.
We're happy to have you with us this evening and want you to enjoy every minute of your stay here. And while you relax and stretch, visit our concession where you'll find something to please you. There are ice-cold drinks, delicious sandwiches, ice cream, coffee and snacks, and many other pleasing treats. Our foods are fresh and tasty, our drinks satisfying and refreshing. They're so good.
You get more out of life when you go out to a movie.
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime.
Get more out of life. Go out to a movie. The China Syndrome. It's about people. People who lie. And people faced with the agony of telling the truth.
Right. Okay.
People like Kimberly Wells, a television reporter paid to smile, not to think.
A few words about a veterinarian who makes house calls on sick fish. Or is it aquarium calls?
Richard Adams, a cameraman who never learned how to play by the rules.
Will you get that other room, get that radiation all over that cute little body?
Jack Goodell, an engineer who knows too much to tell the truth.
In anything that man ever does, there's some element of risk, right? Well, that's why we have what we call defense in depth.
And cares too much to lie.
No accident.
It will start with a tremor in a nuclear power plant. Where it will end will depend on three people.
I would say you're probably lucky to be alive. Same for the rest of Southern California.
Jane Fonda.
Let's face it, you didn't get this job because of your investigative abilities.
Kimberly, don't fight it.
Jack Lemmon.
There was a vibration.
Michael Douglas.
I don't know that accident is the right word.
Accident is the right word.
The China Syndrome. The harder they try, the more resistance they meet.
They've got their own security man. Do you hear what I'm saying? Do you want me to make it any clearer?
The closer they get,
no,
the more threatening it becomes.
No.
The China Syndrome. Today, only a handful of people know what it really means. And they're scared.
Everybody keep your station! Everybody keep your station!
Soon, you will know. The China Syndrome.
The China Syndrome, ou le syndrome chinois, est un drame qui a été produit et distribué par les studios Columbia Pictures le 16 mars 1979. Ce film américain d'une durée de 122 minutes a coûté 5,9 millions de dollars à produire et amassera plus de 51,7 millions au box-office mondial. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène James Bridges, celui qui nous a donné des films tels The Paper Chase, Mike's Murder et Urban Cowboy. Au niveau de la production, eh bien, on y retrouve le producteur américain Michael Douglas, lui qui avait travaillé sur des films tels que Flatliners et One Flew Over the Cuckoo's Nest, alors qu'au niveau de la scénarisation, on y retrouve les scénaristes américains Michael Gray, qui avait travaillé sur Code of Silence et Wavelength, T.S. Cook, ce scénariste américain qui avait travaillé sur The Tuskegee Airmen, Airwolf et Nightbreaker, et finalement, James Bridges, ce scénariste américain qui avait travaillé sur les films Colossus, The Forbidden Project et White Hunter, Blackheart. Dans la distribution, on y retrouve Jane Fonda, Jack Lemmon, Michael Douglas, Scott Brady, James Hampton, Peter Donat, Wilford Brimley et Richard Hurd. En reportage dans une centrale électrique nucléaire, une journaliste de télévision et son équipe de tournage sont témoins d'un incident inquiétant qu'ils enregistrent secrètement. Lorsqu'ils découvrent que leurs images ne seront pas diffusées sur les ondes, l'équipe de journalistes demande l'aide d'un employé responsable de la centrale où s'est déroulé l'incident afin de mettre à jour les dangers de cette usine qui ne semble pas rencontrer les normes de construction gouvernementale. Le scénariste et réalisateur de films documentaires Michael Gray développera en 1976 l'histoire de The China Syndrome après avoir lu une série de livres et interrogé des scientifiques sur les dangers de l'énergie nucléaire. Il offrira alors son scénario original à l'acteur Michael Douglas, qui venait tout juste de connaître le succès avec le film The One Flew Over the Cuckoo's Nest, que Douglas avait lui-même produit, une première dans sa carrière. Douglas refusera tout d'abord le projet parce que Gray voulait absolument réaliser le long-métrage. Mais après quelques mois de réflexion, Douglas reconsidérera le projet et achètera alors les droits cinématographiques de l'œuvre. Par la suite, il embauchera le scénariste Thomas Stephen Cook pour retravailler et raffiner le scénario. Parce qu'il venait tout juste de travailler avec lui, Douglas offrira le rôle de Jack Goodale à l'acteur Jack Nicholson, mais celui-ci déclinera l'offre car il avait déjà signé pour jouer dans le film de Stanley Kubrick, The Shining. Par la suite, ce sera l'acteur Robert Redford qui sera approché, mais ce dernier refusera également le poste. Ce sera finalement l'acteur Jack Lemmon qui sera ravi d'accepter, ce dernier ayant été impliqué dans le mouvement antinucléaire qui œuvrait aux États-Unis, notamment en participant au documentaire sur les dangers des réacteurs réalisé en 1971 et intitulé « Powers That Be ». L'acteur Richard Dreyfuss acceptera par la suite d'incarner le second personnage principal, celui d'un réalisateur de documentaire qui sera témoin de la quasi-catastrophe d'une centrale nucléaire au début du long-métrage et qui cherchera alors à mettre la lumière sur l'événement. En mars 1977, Columbia Pictures fera l'acquisition du projet avec Gray, ce dernier étant alors signé en tant que réalisateur. Dans les premières versions du scénario, il n'y avait pas de personnage féminin principal. Mais lorsque l'acteur Richard Dreyfuss se retirera du projet parce qu'il ne pouvait s'entendre avec la Columbia sur le montant total de son salaire, Douglas approchera alors l'actrice Jane Fonda avec l'idée de changer le rôle de Dreyfuss en journaliste de télévision. Fonda, également une militante antinucléaire, avait déjà tenté précédemment de produire une œuvre sur les dangers du nucléaire en cherchant 2 ans auparavant à obtenir les droits cinématographiques de l'histoire de Karen Silkwood, décédée dans des circonstances suspectes alors qu'elle exposait elle-même des problèmes de sécurité nucléaire. Avec l'implication de Fonda, The China Syndrome deviendra alors une coproduction entre Michael Douglas et IPC Films, la société fondée par Fonda et Bruce Gilbert. Ce dernier deviendra donc producteur exécutif du futur long-métrage alors que le projet se transformait en un film beaucoup plus complexe avec 3 stars majeures et un budget qui atteindrait finalement les 6 millions de dollars. Les producteurs prendront alors la décision de remplacer Michael Gray, qui n'avait jamais réalisé de long-métrage, par le scénariste-réalisateur James Bridges. Bridges refusera initialement l'opportunité en juillet 1977 à cause de son manque de connaissance du sujet, mais acceptera moins d'un mois plus tard après avoir été convaincu par Fonda, Douglas et Gilbert. Bridges retravaillera alors le scénario afin d'incorporer le personnage de Fonda et par le fait même une nouvelle sous-intrigue au niveau du monde de la télévision. Alors que Bridges travaillait sur les améliorations du scénario, Jane Fonda suivra les journalistes Kelly Lange, Heidi Shulman, Jackie King et Robin Groth durant leur travail à Los Angeles et étudiera leur façon de travailler. Du côté de Michael Douglas, ce dernier basera son personnage sur Richard Adams, un caméraman du poste KNBC qui avait été assassiné alors qu'il était en train de filmer un reportage en Guyane, en Amérique du Sud. Les exécutifs des studios Columbia Pictures Studios voulaient à l'origine changer le titre du film. Ils feront référence à des recherches qui montreront que le public avait tendance à penser que le mot « syndrome » était un terme médical associé à la maladie. Les dirigeants ont alors suggéré des titres alternatifs tels que « Powers » et « Eyewitness ». Cependant, l'actrice Jane Fonda, qui avait beaucoup d'influence à Hollywood à l'époque, fera accepter au studio le titre de « The China Syndrome ». Le tournage débutera le 16 janvier 1978 à Los Angeles. les ingénieurs Gregory Miner, Richard Hubbard et Dale Bridenbaugh deviendront alors conseillers techniques au niveau de tout ce qui touchera au nucléaire et seront crédités à l'écran sous le nom de leur société de conseil MHB Technical Associates. Ces derniers rendront crédibles les divers dysfonctionnements présentés dans des films basés sur des incidents réels documentés qui s'étaient produits dans des centrales nucléaires, tels que l'accident de 1970 à l'usine de Dresde dans l'Illinois, où un indicateur bloqué a trompé les opérateurs sur le niveau d'eau du réacteur. Malheureusement, la production n'obtiendra pas l'autorisation de tourner dans une véritable centrale nucléaire. Cependant, les cinéastes ont été autorisés à prendre des photos à l'intérieur de la centrale nucléaire de Trojan en Oregon, ce qui leur permettra de construire une réplique exacte de la salle de contrôle de Trojan pour le tournage. La présentation de l'extérieur de l'usine sera possible grâce à la technique du matte painting, tandis que diverses installations du département de l'eau et de l'électricité de Los Angeles ont été utilisées pour tourner les séquences intérieures et extérieures des turbines. Toutes les scènes de la salle de rédaction furent tournées dans les studios de télévision de KTTV à Los Angeles. Vers la fin du tournage, l'actrice Jane Fonda se fracturera une cheville sur le plateau de tournage, ce qui forcera la production à être arrêtée pendant plus d'une semaine. Au moment où le film a terminé sa production, le calendrier totalisait 60 jours de tournage. Le compositeur de musique Michael Small fut embauché pour réaliser la trame sonore de The China Syndrome. Mais, lors de la post-production, le producteur-acteur Michael Douglas demandera à ce qu'aucune partition musicale ne soit entendue dans le long-métrage, à l'exception de la chanson-thème de Stephen Bishop, Somewhere in Between, afin de créer un aspect de réalisme dans le film. La première mondiale du film aura lieu au Pacific Cinema Dome le 6 mars 1979 dans le cadre d'une projection bénéfice du Laurel Spring Education Centers, une organisation à but non lucratif impliquée dans la sensibilisation de cancer provoquée par des causes industrielles. Une deuxième première, également au profit de Laurel Springs, aura lieu à New York le 15 mars 1979 au Lowe's East Theater. Suite à ces avant-premières, le long métrage suscitera un flot de protestations de la part de l'industrie de l'énergie nucléaire qui croyait que le film soulevait à tort des inquiétudes. La compagnie General Electric, l'un des principaux fournisseurs d'équipements nucléaires, ira même jusqu'à annuler son parrainage d'une émission spéciale télévisée de Barbara Walters, qui réalisait alors une entrevue exclusive avec l'actrice Jane Fonda. Alors que les experts débattaient de la plausibilité du récit décrit dans le film The China Syndrome, la Commission de réglementation nucléaire fermera plus de 5 centrales nucléaires pour des raisons de sécurité le 13 mars 1979, événement qui surviendra en toute coïncidence avec la date de sortie du film. Près de 2 semaines après la sortie nationale du long-métrage, un accident de réacteur nucléaire se produira à l'installation nucléaire de Three Mile Island, près de Harrisburg, en Pennsylvanie. Columbia Pictures interrompra alors toute publicité et annulera toute apparition des acteurs reliés au film, alors que la gravité de l'incident devenait de plus en plus critique, la compagnie et les producteurs ne voulant pas donner l'impression de capitaliser sur la tragédie. Le film ouvrira dans plus de 534 cinémas à travers le continent nord-américain et amassera plus de 4,3 millions de dollars au box-office durant son tout premier week-end, faisant du long-métrage un succès commercial et surtout critique. Suite à l'incident de Three Mile Island, le film attirera une nouvelle vague de cinéphiles, ce qui donnera un véritable coup de pouce inattendu au début du troisième week-end de sortie. Après 1 mois de diffusion, le film avait rapporté un peu plus de 28 millions de dollars en Amérique du Nord, un nouveau record pour une sortie cinématographique lors de cette période normalement calme de l'année. The China Syndrome sera également présenté durant le Festival de Cannes en 1979, où Jack Lemmon recevra le prix du meilleur acteur. Le film sera également nominé pour la Palme d'Or, prix qu'il ne remportera malheureusement pas. Quant au scénariste T.S. Cook, ce dernier obtiendra des nominations comme meilleur scénariste aux Oscars et au Golden Globe de cette même année pour son travail sur le long-métrage. Lemmon et Fonda obtiendront également des nominations aux Oscars pour leurs prestations, alors que le production design pour le film sera également souligné durant cet événement avec une nomination. 5 nominations seront également obtenues aux Golden Globe Awards. Du côté des points forts, eh bien, la force principale de The China Syndrome est sa distribution tout à fait incroyable, qui est menée par un Jack Lemmon en très grande forme, qui nous donne ici un personnage fort mais tourmenté entre sa carrière et sa moralité. Fonda et Douglas sont également excellents, leur chimie étant tout simplement impeccable sur l'écran. La mise en scène est crue, simple et efficace, le metteur en scène nous démontrant un énorme contrôle sur son produit, ce dernier ne se reposant que sur le jeu de ses acteurs, et ce, sans aucune musique, ce qui force ce dernier à mener son suspense avec invention et vigueur, sans aucun tour de passe-passe auditif. D'ailleurs, les moments forts du film nous permettent de voir le véritable talent des trois comédiens qui jouent ici avec une aisance incroyable. Le sujet est très bien exploité, nous montrant très bien les dangers possibles de l'énergie nucléaire et le lien déconcertant entre notre sécurité et les politiques financières des compagnies qui les dirigent. Tout en nous permettant de jeter un regard assez précis sur le monde des nouvelles télévisuelles, The China Syndrome est un excellent exemple de film efficace, réalisé et produit par des gens de métier. Mais du côté des points faibles, eh bien malheureusement, le film sombre quelque peu dans l'intrigue artificielle du mélodramatique, ce qui n'enlève cependant rien au spectacle. Le rythme est très lent ici, The China Syndrome étant avant tout un film d'acteur et non un film catastrophe ou un film d'action. La conclusion du film est quelque peu confuse, nous montrant une catastrophe possible, mais n'expliquant pas pourquoi cette dernière s'est auto-réglée par elle-même. Finalement, le film nous démontre à quel point le sexe masculin n'avait que peu de considération pour le sexe féminin dans le métier du journalisme, quelque chose qui pourrait offenser quelque peu les féministes d'aujourd'hui. Du côté musical, eh bien, il n'y a aucune musique, mais je vais me permettre quand même de vous faire écouter la chanson « Somewhere in Between » du chanteur américain Stephen Bishop.
It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed. And all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
A cup of whipped hot chocolate tastes great right now. Carnation's Coco Supreme, the delicious hot chocolate drink with the light, delicate flavor you like. Wouldn't a good hot cup taste good right now? Ask for a cup of whipped hot chocolate at our snack bar.
And action!
Wow! What a graduation!
I'll say!
But with college behind us, we'll need careers. And good ones.
What about chestnut roasting? People always need chestnuts.
Or begging! I know a place that'll saw your legs off.
Slow down, fellas. I've got a way we can keep our legs and still have a bright future.
Now you're dreaming.
Oh, am I?
Of course! Nuclear power!
It's the job of tomorrow. Today!
Really?
Well, that settles it. For all those reasons and more, let us choose an electrifying career in... Line?
Nuclear power.
Nuclear power.
You thunder-headed stooges are the worst bunch of...
1 minute left to top off the evening with a treat from our snack bar. Still time if you hurry. Last call for refreshments, folks. Go right this second to get something good to eat and drink to enjoy now or during the rest of the show. The finest quality ingredients are in the fixings of the delicious foods you'll find waiting to tempt your appetite at the snack bar. Extra special good hamburgers, wonderful donuts, ice-cold, thirst-quenching drinks. Pizza, generously sliced, steaming hot, fresh coffee, ice cream in many flavors.
And now, on with the show.
Après, même nos actes héroïques, tout cela était insensé. Le vent transporte toute cette fumée, toutes ces radiations. Vous avez affaire à quelque chose qui n'est jamais arrivé sur cette planète. Je vous ai dit ce que je savais. Je sais que vous essaierez de faire de votre mieux. Ils nieront tout, bien entendu. D'habitude.
Tchernobyl.
Tchernobyl est un drame qui a été produit par les studios HBO et qui a été diffusé sur le poste HBO Max le 6 mai 2019. Cette série de 5 épisodes, américaine et britannique, est d'une durée totale de 330 minutes. Elle aura coûté 250 millions de dollars à produire et amassera au niveau du streaming plus d'un million d'auditeurs par épisode sur le continent nord-américain. Au niveau de la réalisation, eh bien, on y retrouve le réalisateur suédois Johan Renck, lui qui avait travaillé sur les films Downloading Nancy et The Last Panthers. Au niveau de la production, eh bien, c'est la productrice allemande San Wallenberg, elle qui avait travaillé sur les films Lock Jim et Margaret. Et finalement, Craig Mazin, ce scénariste américain qui a écrit les scénarios de Scary Movie 3 et 4 ainsi que de Hangover 2 et 3. Dans la distribution de cette mini-série, on y retrouve Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson, Paul Ritter, Jesse Buckley, Adam Nagestis, Con O'Neill, Adrian Rollins, Sam Truston, Robert Helms et David Dencik. L'histoire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, survenue le 26 avril 1986, et ceux qui ont sacrifié leur vie pour sauver l'Europe d'un drame certain. Ce sera en 2014 que le scénariste Craig Mazin commencera ses recherches pour son projet de Tchernobyl en lisant des livres et des rapports gouvernementaux de l'intérieur et de l'extérieur de l'ex-Union soviétique. L'homme allait même s'intéresser au fonctionnement d'un réacteur nucléaire en interrogeant des scientifiques en énergie nucléaire tout en parlant avec d'anciens citoyens soviétiques et ce, pour avoir une meilleure idée de la culture de la Russie en 1986. C'est alors qu'il lira les différents récits personnels des gens qui étaient là-bas et qu'il découvrira la véritable direction de son histoire. Pour lui, ce n'est pas que l'énergie nucléaire moderne qui est dangereuse, mais plutôt le mensonge, l'arrogance et la suppression de la critique qui auraient pu amener à une catastrophe plus mortelle que ce qui fut vécu durant la catastrophe. Le 26 juillet 2017, la société américaine HBO allait s'associer avec la société britannique Sky pour la production d'une mini-série qui serait intitulée tout simplement « Tchernobyl » et qui mettrait alors en vedette les séquences clés de l'accident nucléaire d'avril 1986 ainsi que la gestion par les autorités soviétiques. Il s'agira ici de la toute première coproduction entre les deux compagnies. Johan Renck se verra alors remettre la responsabilité de réaliser les 5 épisodes de la mini-série alors que le scénariste Craig Mazin obtiendra également le poste de producteur exécutif aux côtés de Caroline Strauss et de Jane Featherstone. Johan Renck et Chris Fry occuperont également le poste de producteur exécutif. Pendant que les postes importants au niveau de la production étaient alloués, une femme ukrainienne qui avait vécu à l'époque soviétique analysera chacun des scénarios afin de s'assurer que les dialogues et les petits détails de l'histoire étaient exacts pour cette période. Durant les auditions, il fut rapidement décidé par les producteurs de ne pas forcer les acteurs à interpréter leur rôle avec des accents russes ou ukrainiens et que ceux-ci utilisent leur accent naturel. Cette décision sera prise afin d'éviter que l'auditoire soit détourné du sujet sérieux de la série par des accents non naturels qui auraient pu être mal perçus ou encore pire, faire rire l'auditoire. Simultanément à l'annonce initiale de la série par HBO, il sera annoncé que l'acteur britannique Jared Harris serait l'un des acteurs principaux dans la série. Harris était reconnu surtout pour ses rôles à la télévision, plus précisément dans les séries Fringe, Mad Men, The Expanse et The Crown. Le rôle qu'il allait interpréter, soit celui de Valérie Legasov, fut à l'origine destiné à l'acteur Daniel Day-Lewis, qui avait annoncé sa retraite d'acteur un mois avant l'annonce de la mini-série. En mars 2018, Stellan Skarsgård et Emily Watson se joindront à la distribution, marquant ainsi leur deuxième collaboration ensemble après le long-métrage Breaking the Waves. Finalement, en mai 2018, il fut annoncé que Paul Ritter, Jesse Buckley, Adrian Rawlins et Con O'Neill avaient également rejoint la distribution. Lors de la pré-production, Mazin visitera la zone d'exclusion de Tchernobyl. Le tournage débutera alors en avril 2018 en Lituanie. On se rendra tout d'abord à Fabijoniskas, un quartier résidentiel de Vilnius, en Lituanie, qui sera alors utilisé pour représenter la ville ukrainienne de Pripyat, car ce secteur avait conservé une atmosphère soviétique authentique de l'époque. Fin mai, la production sera alors déplacée à Visaginas, en Lituanie, pour filmer à la fois l'intérieur et l'extérieur de la centrale nucléaire d'Ignalina, une centrale nucléaire désaffectée qui était parfois appelée la sœur de Tchernobyl en raison de sa ressemblance visuelle et de sa puissance nucléaire. Au début de juin 2018, la production déménagera alors en Ukraine pour tourner des scènes finales mineures. Le tournage de Tchernobyl durera plus de 16 semaines. Ce sera le compositeur Johan Johansson qui devait réaliser la trame sonore de Tchernobyl. Malheureusement, ce dernier devait décéder d'une overdose accidentelle en février 2018, forçant la production à trouver un remplaçant. Alors que la mini-série se trouvait en montage, ce sera l'amie et collaboratrice de longue date de Johansson, Hildur Guðnadóttir, qui sera embauché pour réaliser la trame sonore de la mini-série. Alors que la jeune femme islandaise travaillait parallèlement à la trame sonore du film Joker, celle-ci débutera l'enregistrement de sa partition musicale en août 2018. Elle se rendra à la centrale nucléaire d'Ignalina et enregistrera des sons ambiants uniques avec l'aide du spécialiste de l'enregistrement sonore Chris Watson et du producteur de partition Sam Slater. Puis, de retour en studio, la compositrice écoutera les heures d'échantillons de son et composera la plupart de la musique de la bande originale à partir de ces mêmes enregistrements, la jeune femme voulant faire vivre l'expérience sonore du point de vue d'une personne se trouvant réellement à l'intérieur d'une centrale électrique. La série sera diffusée aux États-Unis sur le poste de HBO Max et au Royaume-Uni sur celui de Sky. Au total, quelques 8 millions de personnes en audience cumulée allaient voir la mini-série à travers le continent nord-américain. Suite à la diffusion de chacun des épisodes sur HBO, un podcast sera alors diffusé, présentant des conversations entre le scénariste-producteur Craig Mazin et l'animateur Peter Sagal, qui expliquait alors les éléments historiques de la série et les différents emplacements où certains événements furent modifiés pour l'aspect artistique et dramatique de Tchernobyl. La conception de la production de la série, comme le choix des décors, des accessoires et des costumes, recevra des éloges pour l'attention portée aux différents détails des événements et de la culture soviétique de l'époque. La mini-série sera même assez bien accueillie par certains critiques et publics en Russie. Cependant, des médias proches du pouvoir dénonceront Tchernobyl comme étant une série caricaturale motivée par une propagande anti-russe. De plus, la chaîne publique NTV annoncera alors son propre projet sur la catastrophe de Tchernobyl afin de présenter une version alternative de la tragédie dans laquelle un agent de la CIA était présent dans la centrale au moment du drame. Le Parti communiste de Russie a même demandé un procès en diffamation contre l'écrivain, le réalisateur et les producteurs de Tchernobyl, qualifiant l'émission de dégoûtante, demandant même de bloquer l'accès local à la série sur le territoire soviétique. Tchernobyl obtiendra des nominations au Golden Globe de 2020 pour Jared Harris au titre de meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm, ainsi que Emily Watson au titre de meilleure actrice dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un téléfilm. Cependant, la mini-série remportera les Golden Globes de la meilleure mini-série ou meilleur téléfilm, ainsi que du meilleur acteur dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un téléfilm, soit Stellan Skarsgård. En plus de rapporter une multitude de prix à travers divers événements de 2020, Tchernobyl sera fortement récompensé aux Emmy Awards de 2019, remportant le prix de la meilleure série limitée, de la meilleure réalisation pour Johan Renck, du meilleur scénario pour Craig Mazin, ainsi que pour la meilleure musique pour Hildur Gunnadottir. Les trois réacteurs restants de Tchernobyl sont restés opérationnels après l'explosion du réacteur numéro 4 en 1986. Le réacteur numéro 2 fut arrêté après un incendie en 1991. Le réacteur numéro 1, lui, a été arrêté en 1996 suite à la pression des gouvernements étrangers, alors que le réacteur numéro 3 sera fermé en 2000. Le processus de démantèlement, au point que la centrale ne nécessite plus de radioprotection, est en cours depuis 2019. Du côté des points forts, eh bien, il est important de souligner la réalisation très soignée du metteur en scène qui ne tourne pas les coins ronds ici et nous montre d'intenses moments de bravoure des personnes ayant sacrifié leur vie pour le bien-être du reste de l'Europe et du monde entier. Visuellement, bien que le film ne possède pas un visuel technique époustouflant, sa reproduction historique et visuelle au niveau des décors est tout simplement spectaculaire. L'intensité dramatique est maintenue pendant plus de la moitié de la série grâce à un jeu impeccable de la distribution et à un scénario extrêmement intelligent qui s'intéresse de façon égale à l'aspect humain de cet événement et à l'aspect historique. Au final, Tchernobyl nous démontre d'une façon crue les dangers du nucléaire, de la corruption politique qui ment à sa population au lieu de l'avertir du danger et des conséquences sur cette même population ignorante du danger auquel cette dernière est confrontée, se permettant même de naïvement aller regarder un spectacle impressionnant qu'est l'incendie de la centrale sans se douter des retombées nucléaires qui sont totalement mortelles pour elle. Mais du côté des points faibles, eh bien, la série possède quelques longueurs, surtout dans la deuxième partie de cette dernière, qui jette alors un regard sur les conséquences politiques et environnementales de la catastrophe. De plus, certaines libertés prises avec les faits pourraient enlever une certaine crédibilité historique et documentaire pour certains. Finalement, le personnage principal, qui semble être un homme timide, prend beaucoup de liberté avec des réactions quelque peu réactionnaires face à un gouvernement communiste et totalitaire qui semble dépassé, lui, par les événements, ce qui est quelque chose d'un peu incohérent avec la réalité. Une telle réaction aurait probablement amené à un emprisonnement, voire même à une exécution de ce personnage si celui-ci avait réellement pris ce genre de liberté envers les dirigeants du gouvernement soviétique de l'époque. Du côté de la trame sonore, eh bien, c'est Hildur Guðnadóttir, cette compositrice islandaise qui a composé la musique de cette série. Elle qui avait travaillé sur des films comme The Revenant, Arrival, Prisoner, Joker et The Bleeding House, je vous fais écouter ici un segment musical de la musique de la série télé Tchernobyl. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm avait coté à l'époque China Syndrome 4. Aujourd'hui, il est coté 3. Moi, j'y vais avec un 2. très bonne maîtrise au niveau de la mise en scène. Si vous voulez voir comment qu'un film se réalise sans nécessairement utiliser de la musique, mais vraiment sur le jeu des comédiens, c'est le film à voir. Du côté de Tchernobyl, eh bien, bien sûr, c'est un film qui a été diffusé en streaming, donc il n'y a pas de cote du côté de Mediafilm. Moi, je le cote également 2. Quelle belle reproduction de l'événement et surtout une excellente mise en scène, une série à voir absolument. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma avait coté The China Syndrome général. Moi, j'y vais également avec une cote pour tous, malgré quelques séquences de violence. Alors que du côté de Tchernobyl, la régie du cinéma cote la série 13 ans indicatif. Moi, j'y vais également avec une cote 14 ans, quelques scènes de violence, mais surtout un contenu assez mature. Au niveau de la trame sonore, eh bien, tantôt, je disais qu'il n'y avait pas de trame sonore pour China Syndrome. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui a été mis sur le marché. En effet, la trame sonore du compositeur Michael Small, même si elle n'a pas été retenue pour le film, a été mise sur CD. C'est l'étiquette Instrada qui a sorti une édition limitée de 1000 copies de la musique du film de China Syndrome, composée par Michael Small. Donc, c'est un CD qui est sorti sur le marché le 14 septembre 2009. Pour la trame sonore de la mini-série Tchernobyl, eh bien, celle-ci est disponible sous l'étiquette Gramophon. Vous avez le CD et même le vinyle qui inclut, bien sûr, toute la musique de la compositrice Hildur Gudnadottir. Pour la sortie DVD et Blu-ray, eh bien, le China Syndrome est disponible en français et en anglais en DVD ainsi qu'en Blu-ray. Alors que pour Tchernobyl, eh bien, vous êtes capable d'avoir le film en français, en anglais, sur DVD, sur Blu-ray et également en format 4K. Malheureusement, l'édition 4K ne comprend que la version anglaise. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.